Dans ce premier exposé sur les futurs grands projets du laboratoire et en général de la physique des particules, je me concentrerai sur la partie qui concerne la frontière des hautes énergies. Et donc je commencerai par vous donner, d'essayer de vous dresser un tableau des grandes questions de la physique des hautes énergies aujourd'hui et comment on va tenter d'y répondre à l'avenir, tout en essayant de vous souligner les engagements du LAL dans ces grandes questions et dans cette tentative d'y répondre. Donc, l'échelle la plus faible, la plus petite à laquelle on a sondé la matière jusqu'à présent est de l'ordre d'un 10 millionième de milliardième de mètre, ce qui, par les relations de la physique quantique, nous donne une échelle d'énergie qui est la frontière actuelle de l'énergie que nous avons atteint, qui est de l'ordre de 100 GeV, qui est aussi en équivalent par rapport à l'énergie d'une fission nucléaire 1000 fois supérieure. Et l'échelle dont on va parler aujourd'hui, en tout cas dans cet exposé le plus souvent, c'est l'échelle du TeV, c'est-à-dire 10 puissance 12 électronvolts, et cette échelle est donc de 0,1 électronvolt à l'heure actuelle. À cette échelle, notre compréhension de la matière est qu'elle est faite de particules que l'on pense être élémentaires, et la matière ordinaire est faite donc de quarks et d'électrons, les quarks down et up, qui sont eux liés pour faire des nucléons par la force nucléaire forte qui est représentée par une particule, le gluon. Et les nucléons entre eux sont aussi liés pour constituer des noyaux, aussi par cette force forte représentée par le gluon. En ce qui concerne les atomes, eux sont formés de noyaux et d'électrons et sont liés entre eux par la force électromagnétique qui est véhiculée par les photons. Et cette force électromagnétique est aussi responsable de la liaison entre atomes pour former des molécules et de toute la chimie en général. La force supplémentaire que l'on a observée au siècle dernier, qui est la force faible, notamment dans la désintégration du neutron et dans les réactions de fusion qui ont lieu dans le Soleil, a donné lieu à deux nouvelles particules d'interaction, le W et le Z, et une particule de matière supplémentaire, qui est le neutrino électronique. Donc ces quatre particules forment deux ensembles, tout d'abord les quarks et les leptons, où les quarks sont les particules qui interagissent par l'interaction forte, et les leptons interagissent uniquement par ces deux interactions, faibles et électromagnétiques. Ces deux ensembles forment une famille, qui sont les particules que l'on rencontre donc dans la nature en général, et un des grands bouleversements du siècle dernier a été de voir que ces familles étaient, on en trouvait des copies plus lourdes et instables, formées en particulier par le quark charm, le quark strange, étrange, le muon et le neutrino myonique, par le quark top très lourd, le quark de beauté, le lepton tau et le neutrino toïque. Et cet ensemble de particules donc est régi par une théorie qui est maintenant décrite comme la théorie standard, qui est donc le modèle standard dont je vais vous parler immédiatement. Donc, le modèle standard de la physique des particules a eu un développement très long et difficile au cours du siècle dernier. Ça a pris à peu près un demi-siècle pour le compléter. Les éléments théoriques de base sont la théorie quantique et la relativité, et du côté expérimental, les particules élémentaires que j'ai décrites plus haut. Donc ces théories permettent de décrire la cinématique de ces particules, et une théorie basée sur des symétries nous permet d'interpréter les interactions entre les particules élémentaires, et cette théorie a prédit les particules dont j'ai parlé aussi précédemment, qui sont les particules d'interaction. Alors, le problème qu'a eu ce modèle dans les années 70 est que toutes les particules, à la fois les particules de matière et les particules d'interaction, doivent avoir une masse nulle. Et ce problème a été résolu par le mécanisme de Higgs qui permet aux particules de matière et d'interaction d'avoir des masses, mais qui a des prédictions fortes au niveau expérimental. Sa prédiction la plus éclatante est la présence d'une nouvelle particule qui est le boson de Higgs, et il prévoit aussi le rapport entre des masses et des couplages des bosons d'interaction. Alors, dans ce cadre-là, quasiment tout le modèle a été corroboré, sauf la présence donc, de ce boson de Higgs qui n'a pas encore été observé. Et pourtant, sa masse doit être inférieure au TeV. Alors le modèle standard a eu un succès expérimental tout à fait éclatant. Il permet de décrire absolument tous les phénomènes qui ont été observés auprès des machines passées. Et un des exemples les plus beaux est la cohérence des mesures de précision qui ont été effectuées par exemple l'EP, qui sont représentées par cette ellipse un petit peu aplatie rouge ici, qui, comme vous le voyez sur l'échelle des abscisses, donne la masse du top et l'échelle des ordonnées la masse W, du boson W. On peut, à partir des mesures indirectes faites sur des machines de précision telles que le LEP, qui est un collisionneur à électrons, prédire la masse du top. Et on a vu donc ensuite, par des mesures directes à LEP et au TEVATRON, mais surtout au TEVATRON, qu'on a observé le top à la masse prédite. Alors, les mesures de précision ont permis non seulement de prédire là où se trouvait la masse du top, mais aussi ont une prédiction sur la masse du boson de Higgs, s'il est standard. Et comme vous le voyez sur ce schéma qui montre, si vous voulez, l'opposé de la vraisemblance de la masse du boson de Higgs selon les mesures de précision, le boson de Higgs devrait avoir une masse autour de 100 GeV et de façon quasi certaine inférieure à 200 GeV. En jaune, vous voyez les limites qui ont été posées par les collisionneurs passés. Alors, le modèle standard, qui a un succès si éclatant, a quand même soulève aussi de grandes questions. Alors, tout d'abord, sur les questions fondamentales qu'on peut se poser pour aller vers une théorie ultime. Alors, évidemment, ça ne peut pas être une théorie ultime, le modèle standard, et en particulier parce qu'il n'intègre pas la gravité, et ensuite parce qu'il ne propose pas un schéma d'unification des forces. Et donc, ce sont les grandes questions théoriques qu'on essaye de résoudre à l'heure actuelle. Mais le problème standard n'a pas seulement que des grandes questions théoriques, il a aussi des problèmes intrinsèques. Alors le premier, c'est que si le boson de Higgs existe, il soulève le problème de la hiérarchie de Jones, c'est-à-dire le problème des différentes échelles d'énergie des interactions. Ce problème fait que sa masse est très instable dans la théorie. Et s'il n'existe pas, alors le boson de Higgs, s'il n'existe pas ou s'il est trop lourd, alors la théorie a besoin pour sa cohérence interne absolument de voir apparaître de nouveaux phénomènes à l'échelle du TeV. Et pour ces nouveaux phénomènes, la théorie n'est absolument pas en manque pour prédire ce qui peut se passer au-delà du modèle standard. C'est une partie un petit peu plus difficile pour les machines à suivre. Et donc, je me concentrerai sur deux choix fascinants et très importants, parmi les plus pertinents de modèles au-delà du modèle standard, qui vont nous prédire des phénomènes nouveaux à l'échelle du TeV. Alors le premier, c'est la supersymétrie, qui est une symétrie entre fermions, qui sont les particules de matière, et bosons, qui sont les particules d'interaction et le boson de Higgs, qui prédit donc tout un nouveau spectre de particules. Ces immenses qualités sont d'abord qu'ils stabilisent la masse du boson de Higgs, ensuite qu'il offre un cadre pour intégrer la théorie de la gravitation naturellement. Il offre aussi une indication d'unification des forces, et ensuite il a aussi il résout essentiellement toutes les questions qui se sont posées précédemment. Et il offre aussi un candidat sérieux pour la matière noire, étant la particule supersymétrique la plus légère. Il a quelques petits défauts, mais intrinsèques à toute théorie qui ne peut par définition pas être une théorie ultime. En particulier, c'est que les particules supersymétriques n'ont pas été observées. Si on avait un spectre de particules qui dupliquait les particules du modèle standard, on aurait dû les observer. Elles n'ont pas été observées, donc la supersymétrie est une symétrie approximative, elle doit être brisée, et on peut se poser donc de nouvelles questions. Donc les petits problèmes de la supersymétrie poseront de nouvelles questions, par exemple, comment est brisée la supersymétrie. Alors, le second scénario très intéressant que la théorie nous propose aujourd'hui est issu de théories de supercordes, à savoir, il pose la question s'il existait d'autres dimensions, des dimensions supplémentaires aux trois dimensions spatiales. Alors évidemment, naturellement, on n'est pas sensible à plus de trois dimensions. La théorie des supercordes, d'ailleurs, suggère que si dans, dans la plupart de notre univers trois-dimensionnel, on n'est pas sensible à ces dimensions supplémentaires, c'est parce qu'elles sont enroulées. Alors dans le jargon des supercordes, c'est qu'elles sont compactifiées, avec un rayon d'enroulement assez petit pour qu'on n'y soit pas sensible. En revanche, la gravité qui, elle, est intrinsèquement liée à la structure de l'espace-temps, doit y être forcément liée. Et donc, ce mécanisme, s'il existait des dimensions supplémentaires, la gravité pourrait être diluée dans ces dimensions supplémentaires, et on pourrait donc avoir une théorie de la gravité, où la gravitation a une constante de couplage forte, contrairement à ce que l'on observe dans notre univers trois-dimensionnel. Et on s'est aperçu qu'il est tout à fait possible que dans des scénarios où des dimensions supplémentaires existent, il existe aussi une gravité forte à l'échelle du téraélectronvolt, l'échelle qui nous intéresse. Et donc, ces théories, si la gravité est forte, éliminent de facto le problème de hiérarchie de jauge qu'on a explicité précédemment, et il donne une phénoménologie intéressante et des effets de la gravité observables en accélérateur. Donc, on pourrait observer dans les accélérateurs des gravitons, voire des trous noirs. Alors, ces grandes questions qui se posent donc aujourd'hui aux physiciens expérimentateurs, eh bien, dans tous les scénarios, doivent donner des réponses intéressantes à l'échelle du TEV. Et donc, c'est cette échelle-là qu'on aborde dans l'avenir même très proche. Donc, les machines, l'information expérimentale dans physique des particules, et à essentiellement trois sources, les sources radioactives, les sources astrophysiques et les machines, les accélérateurs de particules. On s'intéressera aux accélérateurs de particules parce que les accélérateurs de particules ont donné une des plus grandes contributions à l'information sur la frontière à haute énergie, et en particulier parce qu'ils permettent de contrôler le protocole expérimental. Alors, leur philosophie, c'est d'essayer toujours d'aller à des distances, à des échelles de distance les plus petites possibles pour comprendre la matière en son cœur, et donc, de façon inverse, de repousser les limites en énergie aux énergies les plus hautes possibles, tout en maximisant le nombre de collisions pour essayer d'observer les phénomènes les plus rares possibles. Alors, dans le passé, les premiers accélérateurs étaient... ont permis d'observer et de découvrir l'électron. C'est l'expérience de J.J. Thomson à la fin du 19e siècle. Et leur mode de fonctionnement aujourd'hui n'est pas si différent parce qu'on accélère toujours des particules chargées par un champ accélérateur. Mais en revanche, les machines sont aujourd'hui beaucoup plus complexes et beaucoup plus puissantes et nécessitent désormais des collaborations mondiales. Alors, à la frontière en énergie et dans le passé proche, on avait essentiellement deux types de machines, les machines à protons et les machines à électrons, donc utilisant les particules les plus abondantes et les plus stables pour inspecter la frontière en énergie. Et alors, je vais vous donner quelques lieux communs à propos de ces machines. Le premier, c'est que à énergie constante, les machines à protons, à coût constant, pardon, les machines à protons peuvent atteindre l'énergie plus élevée, mais ont un environnement assez complexe dû au fait que les protons ne sont pas des particules élémentaires et sont donc moins précises. Mais ce sont donc des machines qui peuvent aller investiguer des énergies plus hautes, et donc on les appelle plutôt des machines à découverte. Concernant les machines à électrons, à coût constant, elles donnent moins d'énergie, mais elles ont un environnement plus simple et donc plus précis. Et ce sont plutôt des machines à mesure. Et ce sont donc des approches, ces deux types de machines sont des approches complémentaires. Alors si on regarde le passé et les 20 dernières années, eh bien, sur l'échelle de temps, la première machine des 20 dernières années à la frontière en énergie était le superproton synchrotron du CERN, qui collisionnait des protons et des antiprotons à 600 GeV. Mais ce qui correspond en réalité à une énergie, parce que les protons ne sont pas des particules élémentaires, à une énergie plutôt de l'ordre de 100 GeV en termes d'inspection des fondements de la nature. Et cette machine a permis de découvrir les bosons W et Z. Cette machine a été suivie d'une machine à électrons au CERN qui a atteint l'énergie de 200 GeV. et qui a étendu la période de temps de 89 à 2000, où on a effectué des mesures de précision qui ont, comme je vous l'ai dit précédemment, ont permis de prédire la masse du top. Sur le point de démarrer la toute nouvelle Vanishing dont vous avez entendu parler, dont vous entendrez parler énormément dans ce colloque, qui est le LHC, qui va collisionner des protons à 14 eV, ce qui va permettre de couvrir en termes d'énergie un domaine allant jusqu'à 2 TeV. Et c'est donc une machine à découverte. C'est exactement le type de machine dont on a besoin maintenant qu'on a une compréhension assez complète du modèle standard et qu'on veut aller au-delà. Alors, le LHC est une machine, une machine qui aura des difficultés tout de même à apporter des réponses tout à fait détaillées sur les nouveaux phénomènes qu'on pourra y découvrir. Alors, une option d'augmenter le nombre de collisions. Alors, il y a un projet qui est une option d'extension du LHC, qui est le super LHC, qui devrait se faire aux environs de 2015. Mais pour donner une réponse vraiment détaillée et pour expliciter les mesures et les découvertes qu'on pourra faire au LHC, on aura besoin d'une machine, comme il a été expliqué précédemment dans le talk précédent, qui est l'ILC, le collisionneur linéaire international, qui pourra inspecter les énergies allant de 200 GeV à 1 TeV. Alors, en 2010, donc d'ici environ 3 ans, on devrait être à même de pouvoir prendre une décision sur ce projet, qui devrait démarrer environ en 2020. Et ces deux machines devraient permettre de couvrir de façon complète le domaine d'énergie et l'échelle du TeV, qui est donc le domaine qui nous intéresse immédiatement. Alors, on a d'autres projets futurs qui sont à plus long terme et pour lesquels on devra attendre d'avoir des résultats pour savoir lequel est le plus pertinent. Alors, le premier, c'est un collisionneur linéaire à nouveau à 5 TeV d'électrons qui est proposé par le CERN ou alors une extension. Mais alors, qui est un projet énorme d'extension en énergie du LHC qui devrait faire des collisions aux alentours de 40 TeV. Alors, concernant le collisionneur linéaire, le CLIC, le LAL a une participation importante, intéressante, disons, car il fournit les canons électrons pour cette machine. Et ces collisionneurs devraient permettre d'inspecter le domaine d'énergie du multi-TeV, de plusieurs TeV. Alors, le LHC tout d'abord. Le LHC va prendre place dans l'ancien tunnel du LEP, qui se trouve à cheval entre la Suisse et la France, tout près de Genève, et vous l'avez représenté ici. Sa circonférence est de 27 km. Il est à une profondeur d'environ, allant de 50 à 175 mètres. Et les deux projets qui vont inspecter la frontière en énergie seront Atlas et CMS. Je vous parlerai plus précisément d'Atlas parce que c'est le projet sur lequel le LAL travaille. Alors, si on prend une vue du tunnel, vous voyez ici, à la suite l'un de l'autre, les dipôles qui sont les aimants qui vont incurver les protons dans la trajectoire des protons. Ces dipôles, il y en a en tout 1232. Ils sont en cours d'installation dans le tunnel. Chacun d'eux fait 14 mètres de longueur et produit un champ de 8 Tesla. Alors, pour atteindre un champ si intense, il a fallu 8000 km de câbles supraconducteurs de niobium titane. En réalité, ces câbles sont faits de filaments, et si on les met bout à bout, ça fait une distance astronomique de quasiment, pratiquement 5 fois la distance Terre-Soleil. La température qui doit régner pour que ces aimants marchent dans le régime supraconducteur est une température de 300 degrés en dessous de la température ambiante. Et c'est une température où l'hélium est superfluide et c'est ce phénomène qui permet de refroidir la machine. Et on aura besoin, pour cela, de 700 000 litres d'hélium liquide. Et pour refroidir l'hélium liquide, on aura besoin aussi de 12 millions de litres d'azote liquide. Un autre chiffre intéressant est que le vide dont on aura besoin pour cette machine est de 6500 m3, ce qui correspond à une petite cathédrale essentielle. Alors, un survol technique des paramètres de la machine est que chaque faisceau comprendra à peu près 3000 paquets à une énergie de 7 TeV. Chaque paquet contiendra environ 100 milliards de protons. Et les dimensions des paquets seront de quelques centimètres de longueur et quelques microns d'épaisseur. Alors, ces caractéristiques techniques font qu'on aura une énergie de faisceau totale de 330 mégajoules, ce qui équivaut environ à 120 kg de TNT, et des croisements de faisceaux tous les 25 nanosecondes, donc 40 millions par seconde, et environ 25 collisions par croisement. Ces caractéristiques font que le LHC est un défi technologique énorme pour sa construction, mais il pose aussi des contraintes extrêmes sur les expériences. Alors, je vous passe ici une petite animation qui montre l'expérience Atlas. Ici, vous avez le tunnel du LHC, deux protons qui vont rentrer en collision, ici, au centre d'Atlas. Et vous voyez que la collision de deux protons produit un très grand nombre, des centaines de particules secondaires. Alors, le travail du physicien, que nous sommes, sera d'aller chercher dans cette forêt de particules les traces de la nouvelle physique. Pour vous donner une idée de la dimension de ce détecteur, vous voyez ici une animation de personnes qui visitent et qui sont en train de se déplacer à côté. Donc la dimension en longueur du détecteur est de 50 mètres pour une hauteur d'environ 20 mètres.
Marouille.
Le laboratoire est très engagé et a développé essentiellement, a été un des principaux acteurs dans le développement du calorimètre électromagnétique qui est au cœur de l'expérience et qui est un des éléments essentiels pour l'étude de la plupart des phénomènes et des processus physiques, et en particulier pour la recherche des bosons de Higgs. Alors ici, vous avez une photo de ce calorimètre électromagnétique déjà installé dans la caverne d'Atlas. Je vais passer rapidement sur les contributions d'Atlas au LAL. Alors, je vous les scanne très rapidement. En particulier, la contribution du LAL dans Atlas a été non seulement sur la stratégie de recherche, sur la conception des outils, mais aussi sur la réalisation industrielle. Et ici, vous avez une photo de la chaîne de production dans le hall IN2P3. Alors, je suis vraiment désolé de devoir estropier le projet ILC. Mais je vais aller directement aux conclusions. Le LAL, alors le projet ILC, vous en entendrez parler à nouveau, mais c'est un projet qui est désormais un effort mondial et qui a une définition de base d'abord proposant des collisions de 200 à 500 GeV et une deuxième phase de collision à 1 TeV. Alors le LAL aussi a eu les paramètres définitifs de la machine et le lieu d'implantation doivent être encore décidés. Et les contributions du LAL dans ce cadre-là sont très diversifiées parce qu'elles sont attenantes à la fois à la machine et à l'expérience. Donc c'est une participation à la définition du projet, l'étude de la physique sur la machine et aussi le développement d'éléments fondamentaux de l'accélérateur comme les coupleurs qui sont une partie non négligeable du coup de la machine et qui sont des éléments essentiels pour transmettre la puissance des clistrons à l'accélérateur. Sur d'autres projets comme une cavité Fabry-Préau pour la polarimétrie, l'optimisation de la zone d'interaction, et la participation aussi au projet de calorimètre pour le détecteur, en particulier du côté de l'électronique. Donc j'en viens à mes conclusions. Alors tout d'abord, la communauté de la physique de haute énergie est sur le point de réaliser son projet le plus important, qui est le LHC. Et cette machine a nécessité une mobilisation mondiale. Il devrait bouleverser notre compréhension des éléments fondamentaux de la nature. Alors que ce soit la découverte du boson de Higgs, de particules supersymétriques ou de dimensions supplémentaires. Dans tous les cas, ces découvertes bouleverseront nos visions. Et l'ILC pourra étudier avec précision ces bouleversements. Et en tout cas, dans ces deux cas, le LAL jouera un rôle majeur dans ces programmes. Voilà. Merci.